Bonjour, ici Olivier Barbenois. Vous écoutez Pas sorti du bois, édition spéciale bière et jerky. Mettez votre switch à gringo à on, ça commence maintenant.
Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
Grand champion du 125 km!
Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leurs barres Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 g de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode.
Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein?
Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 28, déjà 28. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Hubert-Benoît. Salut Olivier.
Salut Yannick.
Comment ça va?
Très bien, toi, et merci beaucoup de l'invitation.
Écoute, ça fait plaisir. Lève un peu, on va voir ton t-shirt parce que là, tu es un digne représentant du Gringos Running Club. Et voilà.
Oui.
Je n'ai parlé avec Marie-Ève la semaine passée. Tu es membre, tu es fondateur en fait du Gringos Running Club. Tu es aussi un aventurier, un triathlète, un coureur d'ultra. On aura l'occasion de jaser de tout ça. C'était supposé être un programme double, back-to-back, deux épisodes consécutifs du Gringos. Mais là, il y a un certain Jean Forcier du QMT qui est venu faire des grosses annonces. Puis il est venu se squeezer dans un épisode spécial que j'ai diffusé dimanche dernier.
Okay.
Mais bref, c'est un spécial programme double Gringo avec Jean qui vient popper entre les deux, mais c'est le fun de recevoir deux membres.
Je suis sûr que Jean, il y a un côté Gringo.
Ouais, exactement. Le tout un peu, je pense, à force. Puis on aura l'occasion de jaser d'où ça vient ce terme-là. Marie-Ève en a parlé un peu, mais elle t'a comme laissé la place pour que tu puisses l'expliquer, sachant que je te recevais une semaine plus tard. Donc, on aura l'occasion de jaser de tout ça. Tu reviens aussi d'un trip assez fou, une aventure sur le sentier des Jésuites ou le sentier maître Innu. Ça aussi, ben, j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, tu l'as dit en introduction, c'est un spécial bière et jerky. Présente-moi qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu bois.
Ben, pour commencer, spécial jerky, mon ami Pascal Gagnon-Lefebvre qui vient de partir. Jerky, là, j'ai tout arraché l'étiquette, j'aurais dû la garder. Je l'ai déjà entamé, j'avais trop hâte. C'est ça, simplejerky.ca. Qui vient de partir ça dans le coin de Bromont, fait qu'un bon petit jerky artisanal, bien assaisonné. Je l'ai apporté dans ma randonnée, justement, dans le Sentier des Jésuites. C'était vraiment un élément qui apporte un peu de chaleur dans tout ça, là.
Ah oui, c'est important, je pense, dans des trips comme ça. Autant les gens qui font des ultra courtes distances, longues distances ou des aventures comme toi de plusieurs jours, je pense que c'est important de m'emmener à travers le plan nutritionnel de se gâter un peu puis se donner un peu de bonheur olfactif parce qu'à un moment donné, hein, juste manger des gels puis des affaires salées puis tout, il faut contrebalancer ça avec du sucré puis il faut se faire plaisir.
Oui, exact. On a pas mal du sucré, salé. Ça joue tout le temps dans ces tons-là, là, mais le jerky avec un peu de poivre dedans comme ça, là, c'est vraiment, yeah, ça fait vraiment du bien, puis ça change la gueule, comme on dit.
C'est clair, écoute, moi je t'accompagne dans le jerky, je te l'ai dit, moi tu m'en as offert, puis je te remercie, moi je suis végétarien, fait que je suis plate de même, j'ai quand même allé me chercher du jerky. Vegan. Pour vrai, j'étais un gros fan de jerky avant d'être végétarien. Puis quand j'ai découvert ces produits, il y en a un peu partout, plein de sortes. Je ne suis pas là pour faire des plugs. De toute façon, c'est pas une compagnie québécoise, que ça ne vaut pas la peine. Mais il y en a du super bon jerky vegan. J'accompagne ça d'une stout espresso de la microbrasserie Menot. Menot dans Charlevoix. Donc, gracieuseté de mes amis de la boutique Cheers qui, semaine après semaine, me fournit en bière pour mes épisodes. Donc, merci boutique Cheers. Jean de Montréal, c'est pour vous les boutiques Cheers. J'en ai plusieurs qui m'écrivaient et j'ai essayé ça après t'avoir entendu en parler, puis c'est cool. Ils te livrent ta bière directement chez vous. Donc, allez voir leur site boutique Cheers. Toi, qu'est-ce que tu bois, Olivier?
Hey, moi, j'encourage ma brasserie Alpha de Québec, qui sont aussi un bon partenaire pour les Gringos. J'adore tous leurs produits. J'en ai même amené deux ce soir.
Fait que
yes, si on fait un concours. Là. Je pense que je vais y aller avec la Squamish pour commencer.
Excellent. Maintenant, tombons dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de toi. Tu as un parcours hyper diversifié. Je l'ai dit au début, là, j'ai mis des étiquettes là-dessus, coureur, aventurier, triathlète. Tu as fait un peu de tout. Parle-moi de ton parcours sportif, plein air, aventurier, qui t'a mené à te lancer dans des aventures comme celle dont tu reviens tout juste, tu sais, dans 10 jours, 280 km. C'est impressionnant, mais je ne pense pas que tu t'es levé un matin et tu te dis « je me lance là-dedans ». C'est quoi le build-up qui a mené à ça?
Ouf, man, c'est tout qu'un parcours, là.
Écoute, t'as deux bières, hein? Tu m'as dit que t'as deux bières, on a le temps.
Non, mais tu sais, j'ai un côté fort aventurier, là, slash gringo, fait que j'aime vraiment essayer bien des choses. Puis dans mon profil, ben c'est ça, j'étais un essayeux, fait que j'ai essayé bien plein des affaires. Mais la course en sentier, ça a tout le temps été l'élément, tu sais, de l'entraînement de base un peu, tu sais. Puis jeune, c'est certain que j'ai joué au hockey. Dans le hockey aussi, j'ai eu la branche entraînement aussi, course à pied, qui puis j'ai pensé à ça justement cette semaine. Les premières influences de course à pied que j'ai eues, c'est vraiment le hockey, puis le tournoi de Pee-Wee. Il y avait des jeunes de Kharkov, je sais pas quel âge que t'as, mais le tournoi Pee-Wee de 92. Écoute, regarde, il y avait des Ukrainiens qui avaient débarqué.
OK.
Eux autres, le matin, ils allaient courir un 10 km. C'était dans leur routine.
Ah ouais.
Puis quand j'avais vu ça, man, j'avais été complètement estomaqué. Là. J'avais pas. Nous autres, le hockey, là, c'est. Tu joues au hockey, tu te pognes une barre de chocolat. Regarde, c'est pas. On n'avait pas comme cet esprit-là. Puis quand je les avais vus, comme de fait, ils avaient complètement. Ils étaient ben trop forts, les gars. Là. Ils étaient surentraînés. C'était vraiment des machines. Là. Et puis, cet équipe-là de Kharkov, c'est ça, me semble, c'était Kharkov, Ukraine, m'ont vraiment inspiré okay, à dire OK, non, entraîne-toi. Puis c'est, le hockey, c'est une chose. La course va te donner le cardio. Là,
ben oui.
Ouais, puis ça, dans tout le sport que j'ai fait après, ben, j'ai tout le temps eu un côté de course. Là.
OK.
Puis là, on voulait dire aussi, bon, ben là, le côté aventurier, ça, je l'ai tout le temps eu. Fait que de partir dans le bois, jeune, que ce soit avec mes cousins, j'avais déménagé jeune à Sainte-Brigitte-de-Laval, ça a été un peu l'élément initiateur d'arriver dans cette espèce de bois-là montagneux qui ressemble un peu à Stoneham et compagnie.
Ben oui.
Puis tu te prends une trail, puis tu cours là-dedans. Puis un moment donné, ben, j'avais demandé une carte topographique à mon père pour puis une boussole pour commencer à explorer, sortir des sentiers, puis commencer à comprendre une carte, puis faire mes propres, sorties.
En autonomie, puis en orientation, parce que tu fais beaucoup d'orientation aussi, je pense.
Oui, c'est ça, je l'ai tout le temps eu en dedans de moi. Je l'ai peu importe l'époque de. Les moments de ma vie, j'en ai fait moins, j'en ai fait plus. Mais jeune, j'ai eu un attrait pour ça. Et puis, à titre d'exemple, j'ai une fille de 11-12 ans là, qui me rappelait un peu, on se rappelle tout le temps, qu'est-ce qu'on faisait à cet âge-là. Puis, c'est drôle, je viens de parler de Sainte-Brigitte-de-Laval, mais je venais de déménager dans ce coin-là. Puis je m'étais lancé là, avec carte et boussole. Sortir de chez nous, puis là, star, les enfants sont comme vidéo, tu sais, sont durs à sortir. Mais moi, tabarouette, ça m'apprenait, c'était plus de me rester dans la maison qui était compliqué. Là.
Qui est une bonne chose.
Qui est une bonne chose. Fait que le côté aventurier, je l'ai eu juste depuis que là, jeune, puis l'apprentissage des cartes et tout ça. Là.
Ah, c'est cool parce que, tu sais, ton parcours, il est vraiment diversifié, puis moi, je dis toujours que je ne prépare pas mes entrevues. Ça reste que souvent, je dis plus que je m'imprègne de mes invités que je prépare les entrevues. Je vais lire des articles sur les gens, sur ce qu'ils ont fait. Je vais voir un peu sur les sites de résultats. Puis j'ai comme découvert un peu tout ce que tu as fait. Puis ça pitch dans tous les sens. Puis T'sais, je ne le dis pas de manière péjorative, au contraire, ça pige dans tous les sens parce qu'il y a une belle diversité. Je veux dire, tu as des marathons, un marathon 3h12, le commun des mortels autour ici qui écoute l'épisode 3h12, c'est un solide temps. Après ça, tu as fait des Ironman, tu as fait des courses, tu as fait de la swim run, tu as fait de l'orientation, tu as fait du canot à glace. Écoute, ça, c'est vraiment diversifié puis ça montre un peu, ça trace un peu le profil du gars.
Ouais, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait mon meilleur temps, 3h12 à un marathon, c'était pas le sport que je pratiquais dans ce temps-là.
Ah ouais.
Je m'entraînais pour faire mon premier combat de boxe amateur.
OK. J'ai pas vu ça nulle part.
Non, ça
malade.
J'ai eu un moment donné une piqûre que j'avais jamais fait de sport martial jeune. Puis vers 30 ans, j'ai dit, Kim, je veux l'essayer. Je voulais savoir c'était quoi le feeling de monter dans le ring puis d'essayer ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner solide, mais c'est jamais arrivé. J'ai jamais eu mon combat. Je me suis blessé au coude. J'ai dû mettre ça de côté. Mais l'entraînement, comme je te disais, la course à pied, je me disais, regarde, dans le ring, là, si tu affrontes un marathonien, bonne chance, man.
Ah, c'est clair. Autant pour le cardio que même pour la force mentale. Là, pour finir un marathon, n'importe qui, peu importe le temps, il y a une force mentale qui vient avec ça. Ce n'est pas de la petite guerre. Hein.
Ça va te faire essouffler dans le ring. Mais c'est ça. La course à pied, c'est vraiment, pour moi, ça ouvre des portes à plein de choses. Puis c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, mon parcours, c'est ça. C'est que j'ai essayé bien plein de trucs. Quand les Spartan Race ont commencé, ben yes, man, moi, je vais l'essayer. Là.
Ah oui.
Puis j'en ai fait un tas. C'est parti comme c'est venu, dans le fond. Le Spartan Race, j'ai eu un intérêt. Puis à un moment donné, whoops, c'est parti, j'ai passé à d'autres choses. Et puis, tu as mentionné Ironman. C'est le même genre de piqûre. Et puis, celle-là m'est arrivée dans mon congé de paternité. Je crois à mon deuxième. Puis là, j'étais en vacances en Floride, sur le bord de la piscine. Je me rappelle encore, j'étais avec mon père. J'ai dit, hey, père, je veux essayer Ironman. Puis, le plus cocasse là-dessus, c'est que j'avais jamais fait de natation. J'avais nagé, là, mais tu sais, j'ai jamais fait de distance dans une piscine, là, des allers-retours. Fait que mon père m'a donné ma première leçon, et puis on en rit encore, là, parce que c'était solidement cocasse. Fait que là, mon père m'avait montré dans une piscine de, je pense que c'était 12 mètres et demi en Floride. Faut que tu reposes ton bras. Fait que lui, il faisait taper son bras dans l'eau, puis là, repose ton bras, puis là, tac! Puis là, c'était ma première leçon. Mais dans mes vacances, man, j'avais déjà acheté mon wetsuit.
Ah ouais?
Ouais. Pour dire, regarde, là, puis j'avais déjà mon plan. Je m'étais fixé 3 ans pour devenir Ironman. Et puis là, j'ai écouté des YouTube, puis je me suis abonné à la revue Triathlète. Puis je m'étais fait un programme de 3 ans. Je me suis dit, la première année, j'essaye un demi-Ironman. La deuxième année, un autre. Puis la troisième année, man, c'est l'Ironman. Fait que c'était
cool. C'est ça qui s'est passé?
C'est ça qui s'est passé. Ça a été un cheminement super le fun. Et puis, après mon Ironman, je n'ai plus fait. Parce que veux pas, c'était ben trop de temps. J'ai consacré beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'était tellement un beau trip. Là. Puis, il fallait que je jumelais ça à des vacances familiales. Puis mon premier demi-Ironman, c'était dans le coin de Timberman. C'était dans le Maine.
OK.
Puis mon deuxième, c'était Tremblant. Très cool comme expérience, là, en passant. T'arrives là, t'as l'impression d'être dans un village olympique.
Ah, c'est finalement. Ça, hein? C'est une fin de semaine de fou quand ça se passe, hein?
Ah, c'est cool. Puis là, après ça, j'étais allé à Lake Placid faire l'Ironman.
Oh shit, OK.
Puis ça a été super. Là. La place est comme magique. Puis de mémoire, c'est un des premiers Ironman. Tu as eu Hawaii.
Ouais.
Je me rappelle plus l'histoire, là, ça a commencé à Hawaii. Mais le premier sur le continent, c'est Lake Placid, qui était reconnu aussi pour avoir des Olympiques au début des...
Ben oui.
Ils ont reçu les Olympiques une ou deux fois. Fait que, tu sais, ils ont vraiment... Belle place, là.
Ah, c'est trippant. T'es un gars passionné. J'ai l'impression que quand tu te lances dans quelque chose, c'est quoi l'expression? C'est quand t'as une idée en tête, tu l'as pas d'un pied. Tu sais, tu dis que t'as eu l'idée de faire ton Runman. Après ça, le wetsuit t'as acheté, t'avais le plan 3 ans, puis tu l'as suivi à la lettre. Tu t'es rendu dans un objectif. Toi, quand tu te fixes quelque chose en tête, tu fonces puis tu y vas.
Ah, exact. Exact. C'est un élément motivateur. Puis j'aime ça me donner un objectif à très long terme que je garde en tête. Et puis au travers de ça, je le parsème de petits défis, mais qui me guident vers le grand dans 3 ou 5 ans. Tu sais.
Ben ouais. Ben c'est logique, je pense, de le prendre par petite bouchée. Puis je pense que c'est nécessaire parce que si tu fais des objectifs ambitieux avec des deadlines trop serrés, ben ça demeure que tu vas juste être déçu parce qu'une blessure, une fois, un petit bobo vient comme de chambouler tes plans. Si tu te dis que je me donne l'objectif dans 3 ans, ben, tu te donnes une espèce de petite marge de manœuvre. T'sais. Tu t'étais donné 2 fois des demi-Ironman. Si le premier n'avait pas pu participer pour X raison, ben, tu n'es pas squeezé dans ton plan, tu as encore du temps pour te préparer.
Faut que tu
c'est long, 3 ans. Hein?
Ah, puis c'est ça. T'es dans mes 3 ans, mais t'es arrivé plein d'affaires. Là. C'est, yeah, mon demi-Ironman, mon premier, là, je l'ai réussi. Mais ça a été une épreuve de logistique. Écoute, j'avais pas le. J'avais jamais fait de triathlon. Jamais.
Ah oui.
J'ai commencé mon premier triathlon, ça a été le demi-Ironman. Et puis.
Ça a été tough.
Ben, j'étais prêt physiquement, mais tu sais, point de vue logistique, là, je vais dire que les gars de triathlon sont quand même spéciaux dans toute. C'est des gens très motivés, très. Comment dire? Ils sont professionnels. Tu sais, un triathlon, là, c'est, les mesures sont là. C'est le, dans le trail, déjà là, oups, c'est un peu différent. Tu sais, là, on a des distances qui sont. C'est une palette de couleurs incroyable là, dans la course en sentier. Là.
Ah, c'est ça, d'une course à l'autre, c'est pas même affaire. Mais j'ai l'impression que le triathlon, pour côtoyer des gens qui en font, j'ai un collègue qui fait des Ironman, puis moi, ça m'impressionne par la logistique aussi de la chose, l'équipement. Là, j'ai l'impression que tout est calculé à la seconde près. Quelque chose que je trouve hyper impressionnant, mais que moi, personnellement, me rejoint peut-être un peu moins. J'aime l'aspect un peu gringo de la trail. Là, tu pars d'un trail, puis tu vas t'amuser. Puis même quand c'est un événement organisé, ça reste que, tu sais, puis même en avant du pack, en arrière du pack, peu importe, je pense qu'il y a cette attitude-là, puis je pense que les gens qui restent en trail longtemps, c'est ça qui aiment, c'est la communauté au-delà de l'événement, c'est de finir au lieu de juste viser un temps à tout prix. Tu peux pas, tu sais, je veux dire, 2 années consécutives, la même course, tu peux avoir des conditions différentes, tu peux avoir de, tu sais, Arcana cette année, c'était boueteux, l'année d'avant, ça ne l'était pas, blablabla, tu sais, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là, on part à l'aventure, puis il arrivera ce qui arrivera, versus un triathlon, je pense, pour bien réussir, pour avoir du fun, puis avoir un temps qui est performant, mais je pense qu'il y a une logistique énorme, puis les transitions sont tricky. En trail, quand tu arrives au ravito, ça se peut que tu te couches à terre 10 minutes, puis ça se passe bien.
exact. En triathlon, surtout au niveau du vélo, tout est mesuré en watts, tout est. C'est mesuré, c'est comme stérile.
Mm-hmm.
Tu arrives en trail, ben là, ben pour moi, le trail, ça a tout le temps été un divertissement. Là, je l'ai tout le temps vu comme une espèce de sorte d'aventure. Puis, pour ça, j'ai essayé toutes sortes de distances aussi. Stage race, ça, c'est, je trouve ça, on n'en parle jamais assez, mais c'est des courses super cool. Il y a une bonne dose d'aventure là-dedans. Là, tu sais,
ah oui. Il y a un trip différent aussi, je pense, de récupérer et de repartir le lendemain, tu sais, de le faire en étape comme ça. Là.
Exact. J'ai fait le transpercé 100.
Oui.
C'est exactement ça. Là, tu sais, puis le deuxième soir, ben là, même tes gadas sont tous. Tu sais, faut que tu sois prêt, là. Faut que tu sois prêt pour le lendemain.
Je trouve que percer à ce temps-là de l'année, c'est boiteux. Hein? Tu sais, moi, c'est ça. J'ai vu des gars arriver avec la boîte jusqu'au nombril, puis pas parce que ça en était étendu là, c'est que le trou d'eau était creux. Tu sais.
Ouais, puis Gaspésia 100, c'est le fun. Jeff, il vend vraiment bien son expérience. Gaspésie, il est maritime, tu sais,
oui.
Tu pars sur le bord de la plage. Nous autres, je ne sais pas si tu as vu les films, ben là, Je parle de quasiment là, 2 ans. Là,
Ouais, l'édition de 2019, là.
ouais, là, on est parti dans le brouillard, mais
Ah
ça me
ouais.
fait marée haute, là, t'es gadasse. Tu viens juste de commencer, là, puis t'es déjà dans le.
Ah non, c'est ça, j'étais là pour faire le crew, puis je me rappelle, tu sais,
Ouais.
moi j'étais là pour un ami qui était sur le 100 miles, fait qu'il part un peu plus tôt que le je pense, non, il part en même temps que le transpercé parce que la gang de Mathieu Blanchard, Jean-Philippe Thibodeau, je me rappelle, lui, mon ami se tenait dans le pack avec eux autres au début, puis tu sais, on fait juste les rejoindre au premier ravito qui, en fait, et, je veux dire, ça fait 2 km de plage, on n'était pas là pour faire du gros sport, mais on était là, début de la journée, il est 4h30 du matin, on va aller voir où il passe. Puis là, les gars arrivent, ils ont 2 km de course sur 160 de fait. Ça s'assoit, on enlève les espadrilles, ça vide le sable, la bouée. Tu sais, ils
Ah,
commencent la
c'est
course, puis t'es déjà bien cassé parce que tu sais, quand t'as 160 km devant toi, puis après 1 km, 2 km, t'as déjà les pieds complètement trempés. Écoute, ça met la table pour l'aventure qui reste.
exactement ça, tu
Là.
l'as dit, c'est une aventure. Fait
Ah, c'est cool. Puis les
j'ai
aventures
plus.
plus à longue distance, comme tu as fait plus récemment, ça vient de où, ça, ces aventures-là, plus en autonomie? Je sais que tu as fait la traversée de Charlevoix. Je sais que là, tu reviens d'une aventure hivernale d'une dizaine de jours. Comment ça s'est inscrit dans ton parcours?
Ben, c'est un peu un intérêt avec les courses d'endurance. À un moment donné, je voulais essayer ça. Puis de fil en aiguille, ben essayer de comprendre tous les mécanismes en arrière de ça, puis de dire, OK, toi, qu'est-ce que tu es capable de prendre comme défi? Puis il y a aussi beaucoup d'influence aussi. Comme exemple, Hélène Dumais, là, ça a été une influence incroyable
Ah ouais.
dans mon développement. J'ai été dans son crew pour l'Infinitus.
OK.
Puis, c'est quand même, ça a été une solide école là, pour moi de voir un athlète aussi déterminé. C'était super le fun. Puis de voir aussi le crew, la logistique en arrière de ça. De voir, de comprendre un peu Hélène, les mathématiques qu'elle avait découvert pour réussir. Tout ça, fait que ça, il y a beaucoup d'influence là-dedans, de dire, OK, je veux l'essayer. C'est certain que moi, c'est pas l'Infinitus, c'est pas dans.
Oui, 888 km. Mais c'est drôle que tu en parles parce que tu sais, David Bombardier m'a raconté exactement la même chose. Je ne sais pas si c'était la même année que tu faisais le crew que David l'avait pacé aussi, mais il
Ben, c'est.
racontait à quel point c'était une influence puis à quel point ça a été une école d'ultra ou de logistique ou de préparation, juste de l'avoir allé. Tu sais.
Ah, exact. Puis, ben oui, c'est l'année
Le fini.
c'est là que j'ai connu David Bombardier aussi.
OK.
Fait qu'on s'est comme, on s'est entrecroisés. Moi, je pense que j'ai resté 5 jours sur l'Infinitus. Puis David, lui, est arrivé, il en a peut-être fait 5 aussi, mais moi, j'ai dû quitter la fin de semaine, puis lui, il a comme fini, là, on s'est
OK.
chevauchés, là. Mais après ça, tu sais, on était à la même école, là, David, après ça. Après ça, David, ben, ça a été dans le Gringo Bus, là, qu'on
Ah oui,
s'est.
c'est ça, exact. Parce qu'on pourra en parler, tu parlais du Gaspésia tantôt, mais le
Ouais.
Gringo Bus, c'est un incontournable du Gaspésia. Je me rappelle, moi, j'étais à Percé en 2019, puis le monde en jasait. T'sais. Il y avait comme la gang qui arrivait du Gringo Bus.
Ah, exact, exact. Mais c'est quand même une soude. Ça vient quand même de l'école Infinitus, dans le fond.
Ouais.
On s'est connus là. Le Gringo Boss, Hélène Dumais, ben, c'était la porte-parole. David Bombardier a eu une bonne influence aussi pour faire la promotion du bus. Et puis, puis OK, et en plus, il y avait Iron sur le Iron Clou, qui était aussi sur le crew pour l'Infinitus.
OK.
Que lui m'a fait connaître la fondation sur la pointe des pieds.
Yes.
Puis de fil en aiguille, c'est le sentier des Jésuites qu'on va parler plus tard, ben ça vient tout de cette école-là. Là,
Tout est interconnecté, hein. Fait
tout
que tout
était
ça part de
bien.
l'infinitus.
Ouais, ben il y a bien des
On
affaires qui ont.
remercie Hélène de se lancer dans des aventures de
Ben, c'est ça.
888 km.
C'est des personnes qui ont de fortes influences. Là. Puis ce qu'elle a fait à l'Infinitus, c'est sûr que dans tout le trail running, écoute, c'est tellement diversifié. T'as l'espèce de Infinitus au travers de ça qui pop, qui est un peu différent de bien des affaires. Mais waouh!
Il n'y a pas de terme. J'essaie d'en chercher un quand j'en parlais avec Hélène, quand je l'ai reçu. Puis invraisemblable, je ne sais pas, non, parce qu'elle l'a fait, mais il y a quelque chose de complètement fou. Puis c'est dur de se le mesurer, mais je pense qu'encore là, tantôt tu parlais de progression, puis de se fixer des objectifs. Bien, Hélène, même si elle a fait des trucs complètement fous en termes de distance et tout ça, il y a quand même petite bouchée par petite bouchée. C'est pas le même matin, puis hein, je vais aller faire 888 km. T'sais, elle a un background de randonneuse qui a fait les Pyrénées dans sa jeune vingtaine. Après ça, les ultras, les longues distances, les 100 mètres, 200 mètres. À un moment donné, tu déboules, puis tu arrives à quelque chose comme ça. Mais je pense que même au-delà de la distance et de l'accomplissement, c'est la femme aussi, puis toute sa détermination, puis sa force mentale qui l'amène à faire ces choses-là, puis à les réussir. Hein.
Non, exact. Je pense qu'avec Infinitus, elle a fait une marque comme un peu intemporelle dans la communauté de trail. Puis c'est surtout l'influence. Regarde, David en parle encore, j'en parle encore, puis ça va rester longtemps, ça.
Non, non, c'est ça. Puis comment le sentier des Jésus est arrivé à travers tout ça? Tu dis que c'est par un contact que tu as rencontré à l'Infinitus, après ça dans le Gringo Bus. Comment tout ça s'est placé ensemble? Combien de temps de préparation et combien de temps à y penser avant de te dire « Bon, ben, je mets mes skis et je pars pour le lac Saint-Jean. »
Ben, comme je te dis, les expéditions comme ça, c'est j'ai beaucoup de préparation en dehors de ça. J'en ai fait une aussi dans l'article sur les traces de Sir John Franklin en 2018. Okay. Cette expédition-là, je l'ai quand même travaillée 3 ans de temps. Juste pour faire les... J'aime faire des expéditions qui sont... avec un côté athlétique, mais je fais des recherches aussi un peu historiques en arrière de ça pour apporter plus de connaissances là, à mes aventures.
Okay.
Puis celle-là, en particulier, j'ai travaillé vraiment fort côté historique, de tout faire les recherches, qu'est-ce qui s'était passé avec cette expédition-là là, de Franklin, qui se sont... comment dire, pauvres Guillaume qui se sont qui ont abandonné le navire en plein milieu de l'Arctique, tu sais, puis entrepris une marche. Puis nous autres, on voulait retourner sur l'île de King William Island puis essayer de marcher tout le long des berges pour essayer de trouver des artefacts de cette.
OK. Vous étiez vraiment sur les traces de ces gens-là, que ça remonte à quelle année?
Ben, l'expédition de Franklin, eux autres, ils ont quitté l'Angleterre en 1845. Deux navires, le Terror puis le Erebus. Ils ont hiverné une première hiver à Bishop Island, puis après ça, on n'a pas vraiment de traces. Ils ont laissé juste un papier sur King William Island, en dessous d'une churn, là, une espèce d'amoncellement de pierre. Puis c'est juste les traditions orales qui, okay, qui ont donné de l'information un peu, qui ont vu des gens, puis ça s'est pis. C'est toutes les expéditions après. Tu sais, John Ray qui a fait des expéditions dans l'Arctique pour aller rechercher des artefacts que les Inuits avaient ramassés. Fait que c'est tout en lisant toutes ces informations-là à gauche, à droite, qu'on s'est dit, hey, on fait une expédition maintenant, ça va sur l'île. Puis, d'après ce qu'on lit, d'après nos recherches, on se fait un tracé. Tu sais, puis c'était solide. Là, on a marché quasiment. On est parti de Cape Felix. En haut, au nord, complètement de King William Island, on a marché tout le long des plages pour jusqu'à Erebus Bay. On a coupé ensuite dans les temps pour finir à Terror Bay. Une expédition de longue haleine, là, 10 jours avec le Mono Walker. Je ne sais pas si tu connais le Mono Walker, mais
non.
C'est une roue. Imagine une roue avec un L en fer, là.
Okay.
Là, tu frappes tous tes bagages, puis tu as juste comme deux poignées ici.
OK.
Puis l'île King William Island, c'est vraiment une île avec des roches comme plates là, qui coupent les semelles de bottes. En plus, tu marches comme dans de la porcelaine là-dedans. Puis, man, ça a été une expédition très formateur aussi pour moi pour dire OK, travaille ce que tu veux. Ce que tu veux explorer, voilà. Puis ça a été une autre bonne école. Mais on finit tout le temps par aller à l'école, on apprend tout le temps. Quoi.
C'était combien de kilomètres cette expédition-là?
Eh bien, c'est au-dessus de On a dû marcher 200 km et plus là, dans des terrains
Hostile.
hostiles.
Pas beaucoup d'hommes qui ont passé là.
Faut que tu traînes ton gun, il y a les ours
Ah
polaires,
ouais,
tu montes
ok.
ta tente, tu mets les protèges, les bear fans, man, puis
Mais
dans ça a été...
je suppose que aussi des expéditions comme ça, tu sais, toi qui a fait de l'orientation et tout, je pense qu'il doit avoir la portion préparation est aussi trippante que le trip lui-même, de cartographier ces choses-là, de
Ah,
tracer, de
exact.
préparer, je veux dire, la logistique. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui font des ultras, tu te dis, hey, je m'en vais faire une course, ça va me prendre 24 heures. Il y a une grosse logistique, là, c'est un autre niveau, je veux dire, exposant 10 comme préparation. Parle-moi un peu de comment tu prépares ces trips-là, puis tu disais que tu aimes qu'il y ait une espèce de lien historique aussi, que ce soit pas juste un accomplissement pour un accomplissement. Puis, tu sais, j'ai lu sur votre expédition sur le sentier des Jésuites, il y a aussi ça derrière. Tu as la préparation, tu as l'effort physique qui est impressionnant, mais tu as aussi tout l'aspect historique, puis d'être sur les traces de gens qui ont été là des siècles avant. Là.
Ben exact. Tu sais, si on parle de la dernière expédition sur le sentier des Jésuites, l'idée m'est venue en participant à la course Crio l'année passée. Puis la course Crio, ben c'est une course d'hiver, fin février, qui consiste à traverser le lac Saint-Jean en raquette ou en course à pied. Course que j'ai trouvée très dure en passant.
Tout le monde qui l'a fait le dit à quel point c'est une course
Ouais.
qui est brutale.
Ah, je l'ai trouvé brutal. Ben, premièrement, je n'étais pas bien préparé physiquement. Puis, man, premier 6 km, j'avais déjà une ampoule en dessous du talon.
Ça part mal.
Ça part mal. C'est ma seule course à date que ravito, je me disais, bon, ben, je drop, là.
Ah ouais.
J'avais tout le temps de quoi. J'ai passé au travers de cette course-là. Je suis content, mais à toutes les ravitaux, mais j'étais là. Terminé, là, je peux pas. J'avais des ampoules, j'ai frette, man, à la fin, là. Le dernier ravito, là, je vais mettre ça en ligne, là, mais il a fallu que je mette la fourche dans le chauffage
Ah ouais,
propane. Bah, ouais,
t'es
man,
complètement gelé.
complètement gelé, là, j'étais. Ah, ben, ouais. Mais.
Moi, ça, à chaque semaine, pour le teaser de l'épisode, je mets une citation de mon invité. Là, je pense que ça va être ça, Olivier. Ça.
Oh, la fourche, man,
Ouais,
jolie. Ça fait mal.
j'en doute pas.
Mais
Écoute.
après ça, je me suis dit, bon, ben là, je veux vivre l'expérience un peu mieux. Là. Je vais y retourner, puis si j'ai aimé ça, pareil. Là, ça a été vraiment une belle expérience. Écoute, t'es sur le lac, c'est la pénombre, c'est super. Le concept, il est génial. Fait que, puis encore une fois, j'avais fait un mini gringo bus pour monter là. Fait que
OK.
en descendant, je me suis dit, hey man, l'année prochaine, je pars de chez nous, hein, je m'en vais au lac, j'y vais de mes propres moyens, là. Fait que là, j'ai étudié toutes les cartes. Puis, pour connecter le Québec au lac Saint-Jean, j'avais trouvé comme deux, trois façons de le faire. Puis, veux, veux pas, quand tu étudies les cartes, faut que tu te dises, bon, ben, faut que tu trouves le chemin le plus facile là, pour te rendre. Tu ne vas pas te garrocher en face du singe juste pour. Tu sais, fait que tu regardes le dénivelé, tu regardes qu'est-ce qui est possible. Et puis, dans mon choix numéro 1, je commençais à avoir des indices qui s'appelaient portage du sauvage. T'as
Okay.
encore, tu sais, des vieux noms qui étaient dérivés des Autochtones qui. S'appelait Portage du Sauvage. Portage Sentier des Jésuites. Là, je le trouvais, mais ça a pris un peu de temps avant que je trouve c'était quoi ce fameux Sentier des Jésuites-là. Parce que même aujourd'hui, si tu fais une recherche sur Google sur le Sentier des Jésuites, là, tu vas te perdre dans un brouhaha d'informations qui est complètement disparate. Le Sentier des Jésuites à Québec, il a été surtout compris, mal compris dans différentes années, dans
Okay.
différentes époques. Je pourrais en parler plus tard, mais il est souvent, très souvent oublié
Ouais.
et incompris. Dans le sens que c'est un sentier autochtone, puis dans ce sens du terme-là, c'est les rivières. Les rivières étaient les rues, les fleuves étaient les autoroutes de l'époque, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que...
Été comme hiver. Hein.
Été comme hiver, ben oui, là, tu sais, tu te promenais en canot sur les rivières et les fleuves. Québec est sur le bord du fleuve, puis Montréal, tu sais, c'est pas pour rien, là. C'est les
Dans le temps,
anciennes.
le vin était dans le Saint-Laurent, c'était...
Exactement, exactement. Fait que quand tu regardes le lac Saint-Jean, ben la Métabetchouane a été une autoroute de l'époque pour que les gens, les Autochtones du temps puissent aller chasser à l'intérieur des terres. L'été, c'était facile de se faire un campement pour avoir de la nourriture, le poisson, tout était... Ils pouvaient vivre en groupe, mais après ça, il fallait qu'ils se séparent un peu partout dans le territoire. Puis là, ça vient le sentier des Jésuites, mais c'est surtout le sentier maître des Innu Montagnais. On l'appelle le sentier maître parce que tous les sentiers secondaires venaient se connecter au sentier maître.
OK.
Fait que tu avais comme la grande section, le sentier maître. Puis au travers de ça, ben, tu te prends une branche, puis ta famille va chasser dans tel coin. Tu sais, tu poses ton hiver là en petits groupes pour carrément survivre, il faut se le dire.
Ben oui.
C'est carrément de la survie. Puis le sentier maître, ben, il est entretenu avec toute la circulation qui se faisait à l'époque.
Ben oui.
Fait que ben, pour venir à mon expédition, ben c'est de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était le sentier des Jésuites. Puis c'est surtout le livre de Lou Lefebvre qui est, soit dit en passant, c'est 340 pages d'informations. Là. C'est boum!
Ça, c'était ta Bible.
Ça a été ma Bible. Et ça va l'être. Selon moi, c'est une œuvre d'art. Puis le livre, il est distribué par la Société historique de Stoneham et Tewksbury.
Ah ouais, OK.
Il est un peu dur à trouver, là.
Mm-hmm.
Puis je remercie la gang de. Quand dans mes recherches Internet, j'ai réussi à trouver le livre, là, c'est la gang de société de la Société du Stoneham et de Tewksbury qui m'ont mis en lien avec Louis Lefebvre.
Okay.
Et puis là, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures avec Louis pour essayer de retracer là, vraiment dans son intégralité. De partir du parc Quartier-Brébeuf jusqu'à des.
Ah oui, c'est ça que moi, quand j'ai vu que vous partiez au parc Quartier-Brébeuf, qui est à Québec, ceux qui ne sont pas de Québec, c'est un parc qui est central dans Limoilou, bien centre-ville de Québec. Vous partez de là, ça connecte direct avec le lac Saint-Jean. C'est malade, là.
Oui, c'est ça. C'est la rivière Saint-Charles, écoute, c'est.
Ah oui.
Ça a été une autoroute très importante. Dans la colonisation. Là, quand tu arrives au lac Saint-Charles, écoute, il allait pêcher là. Les Hurons-Wendat qui étaient là. Le lac Saint-Charles a une histoire terrible. Là, puis, d'ailleurs, ils ont fait des fouilles archéologiques dans ce coin-là, puis ils ont trouvé des artefacts de 4000, 5000 ans, dans le temps que la mer de Champlain s'est retirée. Tu sais, fait qu'au aussitôt que la mer de Champlain s'est retirée, ça a été le début du sentier des Jésuites. Là,
ah oui.
De connecter avec le lac Saint-Jean. Puis là, ben, pour venir au sentier des Jésuites, on l'appelle sentier des Jésuites. C'est juste que au début de la colonisation au lac Saint-Jean, ils ont trouvé, il fallait qu'ils trouvent une méthode pour amener du bétail pour commencer leur ferme, ferme là-bas. Et puis, c'est les Autochtones, c'est les Innu-Montagnais qui avaient la clé de l'énigme en prenant le maître sentier puis d'aller chercher le Québec via ce sentier-là.
OK. Fait que toi, t'es parti de ces informations-là qui pitchent un peu partout, je suppose, parce que justement, c'est pas un sentier balisé, on s'entend. C'est une série de rivières, de portages entre les rivières et les lacs. Combien ça a pris de temps, combien ça t'a pris de temps du moment que tu as eu l'idée jusqu'à trouver puis à cartographier ton tracé, ton sentier?
Un an.
Un an.
Un an de tout avoir l'idée de le réaliser, ça a été un an, puis j'ai mis, puis j'ai eu de la belle collaboration en plus là, avec Louis, là, c'est énorme. C'est grâce à lui, dans le fond. Là. Puis pour revenir à ce que je te disais tantôt, dans ma cartographie, dans mon choix numéro un, qu'on prend tout le temps le chemin le plus facile.
Ben oui.
Ben, c'est ça que les Autochtones du temps avaient fait aussi. Là. Ils avaient pris le chemin le plus facile, point de vue dénivelé. Puis quand la gang voulait apporter du bétail à Métabetchouane, écoute, il fallait qu'ils amènent un taureau là-bas. Là.
Ben oui.
Il fallait pas le faire monter par la côte.
Fait non, que... c'est clair. Puis il y a de la montagne entre les deux. Je veux dire, quand les gens, quand vous montez au lac Saint-Jean, quand tu passes à l'étape, tu es à 800 mètres passé.
Exact.
Puis Québec, tu es à zéro. Là. Fait que déjà exact. En partant, c'est montagneux en masse comme coin. Là.
Exact. Puis ben regarde juste le parc national. C'est
ah oui.
Soufflant. Mais cette section-là est particulière. Mais l'histoire du Sentier des Jésuites est formidable. D'ailleurs, le parc national, savais-tu quand j'ai appris ça aussi dans le livre, c'est que il y avait eu un projet de barrage hydroélectrique dans Jean-Cartier.
Ah ouais.
Ouais, ils voulaient mettre un barrage direct là, mon homme. Dans les années 70, ça a été une des premières manifestations écologiques, si tu veux, là, au Québec. Puis le Sentier des Jésuites a un peu servi là-dedans à dire non, si vous faites votre barrage, vous allez détruire les vestiges du Sentier des Jésuites. Man, je peux pas imaginer un barrage dans ce magnifique parc. Mais
non, imagine,
parc-là.
Les gens de la région de Québec, je pense, tous ceux qui font un peu de plein air ou de la course en sentier, ou peu importe le sport, le parc de la Jacques-Cartier, c'est un privilège d'avoir ça dans notre cour en arrière, puis c'est exceptionnel. Puis la Jacques-Cartier, parce que, tu sais, quand tu fais un barrage, il y a le fait que tu fais un barrage à la rivière, mais aussi les impacts que ça a. Tu sais.
Ouais.
Si tu mets un barrage dans Jacques-Cartier dans les années 70, aujourd'hui, il y a clairement un lac plus haut à cause d'une accumulation d'eau. Puis on n'a pas le beau parc national naturel qu'on a à côté ici, tu sais, avec une préservation de la faune, de la flore. Puis c'est écœurant comme spot. Là.
Ah non, exact. Comme tu dis, toutes ces lectures-là m'ont fait OK, wow, on a sauvé une là.
Solide.
Solide.
Ah, mais c'est intéressant que ces recherches-là aussi t'amènent à découvrir pas juste sur le Sentier des Jésuites lui-même, mais sur notre parc national à côté, puis de voir un peu des choses qui sont passées il n'y a pas si longtemps, puis que justement ce tracé-là historique est venu être l'argument qui a dit ben non, on ne le fera pas finalement. Puis,
mais quand même, wow, quand j'ai vu ça. Non, le Sentier des Jésuites il fait partie de notre patrimoine plus que je le pensais.
Mm-hmm.
Tu sais, tantôt, je disais, ils l'ont mal. On l'oublie, on le comprend pas. Au fil des époques, on l'interprète à notre manière, le Sentier des Jésuites. Comme, par exemple, au début des années 1800, ils voulaient faire un chemin de fer entre Québec et le lac Saint-Jean. La vieille rumeur que là, il y avait un chemin, ils l'appelaient le chemin français dans ce temps-là, là. Puis au travers de ça, ben il y avait des arpenteurs qui voulaient faire un chemin de fer. Qui
ouais.
disaient, bon, ben si on passait par là, ça veut dire que le dénivelé, ce serait dans ce coin-là qu'il faudrait tirer un trait puis faire un chemin de fer. Il n'y a jamais eu lieu. Mais dans toutes les recherches, le Sentier des Jésuites, il y avait une inspiration pour... OK, ils cherchaient pour faire un chemin de fer.
OK.
Ben d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, j'ai fait le défi 24 heures Québec,
ouais.
Rivière-à-Pierre.
Oui, tu sais, t'as connecté Rivière-à-Pierre, la gare de Rivière-à-Pierre à la gare du Palais. T'as fait un tracé même qui est sur Fastest Non-Time, un tracé d'une gare à l'autre. Je pense que c'est quoi? C'est quasiment 100 km ce tracé-là?
Gare, ouais, c'est 96 km.
Okay.
Mais ça, c'est une sous-dérivée de mon Sentier
ah,
des
ouais.
Jésuites, parce que justement, là, je suis en train de parler des chemins de fer. Et puis, ben là, c'est là que j'ai compris qu'existait le chemin de fer entre Québec et Rivière-à-Pierre. Et puis que le fameux chemin de fer, finalement, il a fait Rivière-à-Pierre pour aller au lac Édouard et puis vers en haut, Van Bruxelles, puis qu'est-ce qui signe.
Okay.
Les amateurs de plein air, dans les années 70, là, 80, dont Louis Lefebvre, prenait le train à Québec canot, puis embarquait dans le train, passait à Rivière-à-Pierre, montait au Lac-Édouard, allait à Kiskissin, puis commençait une ride de plein air.
OK, puis il redescendait.
Il redescendait, il faisait le sentier des Jésuites à leur interprétation, parce que le tracé n'avait pas été vraiment compris à ces époques-là. Mais nous, on disait qu'il faisait le sentier des Jésuites.
OK.
Juste de bouche à oreille, tu sais, il disait, si tu prends Métabitchouan, puis. Tu sais, le bouche à oreille, on en revient quasiment à mon expédition de Franklin, là.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire que, ouais, les gars de Franklin, ils ont passé par là, mais ces époques-là, les preuves historiques, là, il n'y en a pas tant que ça. C'est des autochtones qui, tu sais, ton morceau de boulot, là, il est décomposé si on fait un tracé là-dessus.
Ben non, c'est ça.
Il y a peu d'écrits. Tu sais, il y a peu d'écrits.
À ta connaissance, y a-tu du monde qui l'avait fait dans son format que toi, tu te lançais, tu sais, ce tracé-là que toi, tu as cartographié avec les écrits, avec ce que tu as entendu, ce que tu as lu, ce que tu as jasé. Y a-tu d'autres personnes qui l'avaient essayé dans les dernières décennies?
Le tracé, c'est Louis Lefebvre qui l'a quasiment pendant 30 ans fait ses études pour proposer son livre en 2008 qui est sorti.
OK.
Puis
lui, il l'a-tu fait, l'expédition?
Oui.
OK.
Il l'a fait en 1980.
OK.
Et puis, la journée de mon départ, je vais publier cette photo-là bientôt, là. Mais l'expédition de 1980, il y a encore 3 survivants, si tu veux, de cette expédition-là. Il y avait Louis, il y avait Marc Allard, puis Georges. Et puis, ils sont venus à mon départ, justement.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Crème, c'est cool, ça.
Ça, c'était vraiment cool.
C'est comme boucler la boucle, les derniers qui l'ont peut-être accompli entre eux dans les années 80, en 80 et toi en 2021.
J'aurais tellement aimé ça réussir, là, cette expédition-là, mais Mère Nature m'a empêché.
Puis comment Sébastien Lapierre s'est intégré à cette aventure-là? Ceux qui ne connaissent pas Sébastien Lapierre, c'est le premier Canadien qui a atteint le pôle Sud en solitaire, en pleine autonomie, parmi d'autres aventures. C'est un gars qui a fait des trucs assez fous aussi en termes d'aventure, d'autonomie, puis de partir dans la brousse en solo. Comment il s'est intégré à ton projet?
Ben, j'ai connu Sébastien suite à mon expédition dans l'Arctique. Je ne me rappelle plus là, via les réseaux sociaux. Sébastien, lui, avait fait une randonnée en kayak dans l'Arctique canadien. Puis, on a commencé à chatter ensemble à ce temps-là. Puis, après ça, ben là, quand je suis arrivé avec le Sentier des Jésuites, là, je dis là, ça me prenait un partner solide. Puis, je pense que au Québec, là, il y avait Sébastien Lapierre qui est de calibre international.
Ben oui.
Fait que j'ai dit, Sébastien, j'ai besoin de ton aide pour réussir cette expédition-là. Et puis, Sébastien, là, il s'est vraiment imprégné de toutes mes recherches de l'histoire. Il a vraiment adoré, captivé par le volet du Sentier des Jésus. Puis ça a été le best partner que je ne pouvais pas trouver, finalement. C'est dommage qu'on n'ait pas pu réussir ça fait partie de l'aventure.
Je pense que oui. Tu revenais tantôt, tu parlais d'Hélène Dumais comme inspiration. Mais tu sais, Hélène, j'en ai parlé avec elle. La plupart des défis démesurés qu'elle a accomplis, c'était pas au premier essai. T'sais, l'Infinitus, elle a pris 3 fois avant de réussir. Puis il y a cette résilience-là aussi dans sa démarche. Puis c'est inspirant de voir ça. Puis tu sais, je pense qu'on s'est reparlé, qu'on était supposé se parler à ton retour d'une aventure réussie. Puis tu m'as dit, si tu veux encore me recevoir, j'ai comme double. Moi, ça change absolument rien à la jasette parce que, tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Puis c'est toute la démarche, ce que tu viens d'expliquer. Moi, ça me fascine, justement, cette préparation-là. Puis, parle-moi de l'aventure comme ça, tu sais, du moment de votre départ jusqu'à la décision de devoir rebrousser chemin.
Bien, on est parti en Lyon, je te dirais. La première partie du Sentier des Jésuites, c'est la partie urbaine. Donc, c'est la rivière Saint-Charles. Pour aller jusqu'au lac Saint-Charles, pour aller dans la vallée de Tewksbury, puis ensuite aller chercher la fameuse Rivière-Jacques-Cartier. Fait que ça, c'était la région urbaine. Puis, qu'est-ce que je me rappelle de cette première journée-là? J'ai réalisé comment il y avait de personnes qui avaient suivi mon expédition via la télé. Là. Un moment donné, on avait fait un petit partage sur... on n'avait pas le choix de sortir. Il y avait un pont boulevard par le Lièvre. Ben, il y a un autobus de ville qui a arrêté. Puis le chauffeur a fait « Hey, c'est vous autres les aventuriers? » là. Puis là, on a vraiment vu qu'il y avait un avant...
Ouais, c'est clair.
Tout le monde qu'on a croisé avait entendu parler de notre sentier. Fait que la première journée, ça a été une allège. On n'avait pas notre traîneau. Mais on s'est claqué quand même. On s'est rendu jusqu'à Empire 47 là, dans la mer.
OK, ouais, quand même.
Quand même, fait que, je ne me rappelle plus des chiffres, mais on a.
Ben, la rivière Saint-Charles, si tu pars de Limoilou, tu t'as fait en intégrale, c'est un 32 kilos, je pense.
Ouais, on a fait 40-50 km la première journée.
Ah ouais, c'est ça.
Ensuite, le lendemain matin, c'est la journée la plus dure parce que ça consiste qu'à. C'est l'obstacle principal du sentier des Jésuites. C'est la fameuse montée en altitude. Au point où on est, là, c'était à peu près à 230 mètres d'altitude à la rivière Jacques-Cartier. Et puis, il faut que tu ailles chercher un 710 dans un 20 km, je te dirais.
OK.
Puis, ben, c'est pas si hallucinant que ça. Là. Tu sais, là, quand on parle de déniveler dans le trail, c'est pas ça.
Il y a une différence entre le faire dans une trail balisée, d'aller faire le. Tu sais, tu vas faire les loups au parlage de quartier, ce sentier-là, que tu viens de faire ce dénivelé-là. Par contre, là, c'est une autre game aussi. Vous êtes avec les skis de randonnée, vous avez le traîneau, vous passez pas nécessairement par le sentier balisé par le parc de la CEPAC.
C'est un autre game. Il faut se rappeler que le sentier des Jésuites, c'est le chemin le plus facile pour se rendre au lac Saint-Jean. C'est le chemin pour passer du bétail. C'est le chemin que le monde utilisait. C'est le Les trails ont tout le temps une fonction.
Ah oui.
Quand tu regardes une carte, la trail est supposée te dire... S'il y a du monde qui ont plié ici, c'est qu'il y avait une utilité. Il y avait un but. Là.
Ouais.
Un sentier devient un chemin après, devient une autoroute. T'sais, ça dépend... Combien de personnes l'utilisent. Donc, on parle de monter à 710, mais c'est certain que le dénivelé n'était pas si fort que ça, parce que là, il faut passer le bétail et tout ça. Mais bref, ça fait quand même une grosse journée d'expédition pour monter à 710 mètres avec le pack-sac.
Je t'arrête deux secondes, parce que je pense qu'on ne l'a pas dit. Moi, c'était comme acquis dans ma tête parce que j'ai vu les images et tout. Mais du début à la fin, étiez-vous tout le temps en ski de randonnée?
Oui.
OK, vraiment de A à Z, c'était avec les skis de randonnée. Je tenais à le mentionner juste pour camper pour les gens qui écoutent. OK, c'est étiez-vous à pied, en raquette? Non, c'était en ski de randonnée.
Oui, non, c'est ça, en ski de randonnée.
Fait que troisième journée.
Troisième journée, là, c'est là que ça commence à être intense. On a beaucoup de lacs à traverser, puis de ruisseaux. Et puis là, ben c'est plate cette année. Il y a eu des redoux, il y a eu de la pluie. Les lacs ont comme gelé, ils ont accumulé de la pluie, puis par-dessus, la neige a servi à isoler la pluie puis la slotch en dessous de ça. Mais on avait tellement espérance que de monter en altitude, qu'on n'ait pas ce phénomène-là. Et puis, les nuits étaient frettes.
Ah ouais.
On a pogné les trois nuits. Là. J'avais pas de thermomètre sur moi, mais j'ai vraiment eu l'impression que autour de moins 18, moins 20 nos nuits. Là,
quand parce même.
Que, ouais. Il faisait frais. Colin, la neige, elle isolait tout ce
Ah ouais.
Fait que notre troisième journée, on a fait seulement 7 km après une journée d'ouvrage. Là.
Aïe, aïe.
Puis, quand je te dis une journée d'ouvrage, là, c'est une très grosse journée d'ouvrage.
C'est un gros 7 km.
Oui. Fait que le soir, là, on a fait. On s'est fait un petit peu de camp pour dire, regarde, on se réchauffe puis qu'on commence à. Mais l'idée était pas mal faite, là, à moi puis Sébastien, de dire, regarde, impossible.
Alors, ça s'est avancé à ce rythme-là, puis je pense que ça a pris autant de temps pour 7 km, c'est aussi parce qu'il y a tout le temps en mode gestion de problèmes, gestion de crise, de comment qu'on fait pour traverser ce lac-là, puis cette rivière-là, si c'est pas solide.
Là, qu'est-ce qui arrivait en plus, c'est que ça commençait à être dur sur le matériel. Okay. La prochaine chose qui allait arriver, là, c'est un bris de matériel, ou bien, tout se fait mal, là, tu sais, ou bien une blessure.
Mm-hmm.
Fait que les risques commençaient à monter. Et puis là, le lendemain, si on continuait, on avait la deuxième portion la plus dure du Sentier des Jésuites, qui était de passer à peu près de 700 mètres à 850 mètres, le dernier stretch. Comme tu es dans une partie encore plus éloignée, là, encore moins utilisée, fait que le bois est encore un petit peu plus sale. Et là, on a fait, ah, oh, man, si les lacs, là, on pogne encore de la slotch à 710, on va en pogner encore à 850, puis après ça, bon, on descend tranquillement vers le lac, mais on va repogner les mêmes situations.
Ah oui, si tu descends en altitude, nécessairement, il va faire de plus en plus chaud, puis ta slotch va être partout, là.
Mais personnellement, j'ai beaucoup appris. Cette année, je le savais que c'était pas la meilleure année pour le faire, le Sentier des Gilles. C'est pas sorti de même. En Noël, puis jour d'aller, j'ai un lac dans le coin de Quaticook, là, j'ai un chalet sur le bord d'un lac. Puis le lac a dégelé. Il a calé, là. J'en avais jamais vu ça, là.
Ah non, c'est ça.
Puis, moi, je le savais que c'était mon année pour faire le Sentier des Jésus. Mais j'étais tellement, comme je t'ai dit, j'ai tellement mis d'efforts là-dessus que là, tu dis, bon, ben, je veux le faire, là.
On va l'essayer, puis on verra.
Je le savais qu'il fallait que je reporte à l'année prochaine.
Ouais.
Mais man, j'étais tellement emballé par le projet. On en revient à Hélène, là. Quand la décision a décidé, ben, il faut que j'en revire de bord. Hélène, son premier infinitus, là, a dû prendre la décision, m'amener, disant, bon, ben, OK, je me reprends, tu sais.
Ah ouais, c'est ça.
J'y ai pensé, là, regarde, ça fait partie de.
Ça fait partie de l'aventure, puis je le disais tantôt, ça fait partie du parcours de plein de coureurs, plein de coureuses. Puis tu sais, je suis rendu, tu sais, t'es mon 28e invité, j'en ai reçu du monde, on a jasé de trail, puis à peu près tout le monde a un DNF, sauf Richard Turgeon, on y envoie la main. Mais tout le monde a une expérience, puis tu sais, même Richard, je blague, là, j'y envoie une petite craque, mais Richard, il les racontait, il y a eu des expériences difficiles. Toi, je pense que tu apprends plus dans une course qui va mal, tu apprends plus dans une expédition qui va mal. Tu sais, si ça avait été parfait, j'en doute, là, c'est 10 jours et rien peut être parfait, ouais. Mais ça reste que si tout avait été comme prévu, tu dis, ah, c'est trippant, mais là, tu viens d'en apprendre une shot, je suppose, puis de passer ce temps-là aussi avec Sébastien Lapierre, comme tu disais tantôt, c'est probablement la meilleure personne au Québec qui pouvait faire ce trip-là avec toi, ben c'est une école en soi. Là. C'est un cours que tu viens de suivre, un crash course. Là.
Ben exact. Tu sais, on parlait de la course cryo. Si j'avais fait de la course cryo comme dans du bar, j'aurais dit, bon, ben, est fait, je passe à d'autres choses.
Ah oui.
Et là, j'avais eu une difficulté. Je dis, non, il faut que tu te reprennes, tu te représentes, tu fais une bonne course là, l'année prochaine. Hein. Puis vas-y. C'est ce moteur-là qui m'a fait découvrir le Sentier des Jésus. Donc, déjà, dans la semi-échec de ma course cryo, ça m'a déjà mis le terrain pour ma prochaine expédition. Puis là, comme tu viens de dire, ben là, je viens de découvrir, j'ai des bons partenaires pour des futures expéditions. J'ai appris, Yann.
Non, la préparation de tout ça aussi, dis, parle-moi un peu de. Le gear qu'on traîne pour une expédition de 280 km comme ça, tu le disais, vous étiez en ski de randonnée avec un traîneau chacun. Parle-moi un peu, c'était quoi l'équipement que vous traîniez comme ça sur du jour?
Ben, la liste est longue. Là,
ouais. Les éléments principaux, vous avez chacun votre tente.
Tu sais, comme en ultra, il y a déjà même un petit buzz de faire son...
Sa photo d'avant-course, là. Et toi, tu sais que tu l'as fait avec juste ta bouffe. J'ai vu ça passer sur Facebook, juste ta bouffe pour cette expédition-là. Écoute, t'avais tes ziplocs de, de granola. On en parlera tantôt de Stoke Toast. Puis t'avais ton jerky puis tout, mais c'est ça, la préparation pour ça.
Ouais.
Ta bouffe, tu calcules comment, mettons qu'on prend une part, parce que peut-être que c'est beaucoup de te dire, raconte-moi ton gear au complet. Parle-moi de la bouffe. C'était quoi la stratégie nutritionnelle pour autant de temps, autant d'efforts?
La bouffe, on va y aller rapidement, mais ça revient tout le temps comme tout le temps au même. Dans l'ultra, veux pas, c'est une maudite bonne école pour la nutrition. Fait que rapidement, là, je sais que ton public qui t'écoute en sait pas mal. Bon, ben, j'avais comme target entre 5 000 et 5 500 calories par jour.
Okay.
Là-dessus, qu'est-ce qui est très important, c'est le poids versus calories. Fait que plus que ta bouffe est lourde, plus que... Puis c'est ça le challenge, c'est d'avoir des calories, mais qui te rapportent, puis qui sont légères.
Ah oui, faut que tu traînes pendant ce que tu vas manger la dernière journée, il faut que tu traînes à partir du jour 1. Là.
Fait que tu sais, la nourriture déshydratée, bon ben man, c'est dur à battre, là, ça ne pèse rien, puis tu as des calories là-dedans. Mais après ça, ben... C'est plus les bars puis toutes les collations qui commencent à hop, hop, hop. Puis là, tu commences à avoir du stock en arrière. Fait que c'est vraiment ces calculs-là de dire, OK, qu'est-ce que t'emmènes comme collation? Le volume n'était pas si important que ça parce que tu sais, j'ai quand même la place dans le traîneau, mais c'était vraiment le poids. Tu sais. Qu'est-ce qui est dans les autres calculs, c'est l'hydratation. C'est que là, il faut que tu te fasses de l'eau à partir de la neige. Puis il faut que tu traînes ton nafta, tu sais, pour que combien de nafta tu vas traîner pendant 10 jours, combien de nafta ça prend pour faire un litre d'eau, comment tu vas boire d'eau dans une journée, puis après ça, ben là, c'est toute cette mathématique-là aussi, l'hydratation qui est très importante. Et puis que je regarde un peu ce que j'avais fait lors de mes 3 premiers jours, je me dis que j'avais peut-être fait un erreur aussi dans mon calcul d'hydratation. Normalement, dans mes expéditions hivernales, je traîne tout le temps mon camelback dans mon sac à dos.
Ouais.
Ton sac à dos sert un peu à réchauffer ton eau. Mais la dernière fois que j'avais fait une expédition, hein, je sais pas ce qui était avec mon sac, mais il a tout foiré mon linge dans mon sac à dos. Puis là, l'hiver, c'est toute la notion d'humidité, tout ton linge, l'eau, c'est ta pire ennemie. Là.
Ah oui.
Fait que même quand tu fais des efforts, quand tu arrives à la fin de ta journée, t'espères que tu sèches ton kit pour que le lendemain, tu aies moins de... Si tu commences déjà à prendre ton linge de sport, ça va pas bien sur 10 jours.
Non, c'est ça.
Faut que tu réussisses à garder ton linge sec. L'humidité, c'est un... Fait que faire une histoire courte, j'ai pris comme 2 thermos pour faire mon hydratation dans une journée.
OK.
J'ai pris 2 thermos de 720 puis millilitres. Puis j'avais dans le sleigh en arrière un thermos d'un litre 0.6.
OK.
Puis je sais pas pourquoi, ça n'a pas bien été. Je buvais pas assez. Fallait que je sorte mon sac à dos, dépine mon thermos. Puis comme je te dis, la troisième journée, dur labeur, ben c'est là que ton eau n'est pas facile d'accès. Qui font dire que tu veux juste bûcher, man? Tu veux sortir de là, tu bois pas. Et puis là, le soir, vu que tu n'as pas bien bu, ben, tu as de la misère à manger.
Ouais, c'est ça.
Et puis là, c'est là que ça commence à s'enchaîner. Si tu n'as pas bien mangé le soir, le lendemain, ben, t'as rien dans les jambes pour commencer. Là. Fait que là, ben là, t'as tes... Oh, man. Puis en expédition d'hiver, la nutrition, c'est pas hyper complexe, mais tu gardes tout le temps un peu d'eau chaude le soir pour te starter le matin. Là, si tu commences le matin à te faire bouillir de la neige pour ta bouffe le matin, tu perds une demi-heure, 40 minutes. Là, le matin, là, tu sors de ton sleeping. Tank, faut que tu commences ton expédition.
Non, c'est
pas un brunch, là. Fait que, tu sais, si t'as de l'eau chaude dans un thermos, déjà là, ton matin, tu peux enchaîner.
Mm-hmm.
Après ça, t'es sur les collations un peu toute la journée, puis le soir, tu refais ton eau, tu refais de ta nourriture est déshydratée, puis c'est un peu le bilan nutritionnel si tu veux dans une expédition à longue durée.
OK.
Après ça, ben, point de vue gear, ben là, c'est le camping d'hiver qui rentre en ligne de compte.
Ben c'est ça, c'est du stock, mais.
Camping d'hiver, ben là, c'est la tente d'hiver qui est quand même pesante. Matelas de sol, j'utilise tout le temps deux matelas, un en foam et un gonflable. Le sleeping d'hiver aussi, quand même léger, mais prend quand même du volume. Ensuite de ça, ben, ton slip, man, il faut tout le temps qu'il reste sec. Toute la notion de camping d'hiver, de gestion encore une fois d'humidité, dans la tente, là, tu sais, il y a beaucoup d'éléments dans une expédition.
Ah, c'est ça, c'est beaucoup d'affaires. Je pense qu'il y a beaucoup de documentation là-dessus. Puis je ne veux pas entrer trop dans le détail non plus, mais je pense que n'importe qui ça pourrait l'intéresser, il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. J'en avais parlé avec Philippe Desautels à un épisode où lui fait beaucoup des aventures en autonomie, c'est plus course, mais des longues sorties d'autonomie. Puis c'est un art, je pense. Puis c'est plus t'en fais, plus tu progresses, plus tu apprends là-dedans. Tu as la théorie, je pense, qui est bien de connaître, c'est important, mais après ça, faut que tu en fasses, tu sais, je veux dire, avant de te lancer dans ces grosses expéditions-là, je suppose qu'il y a une part de préparation aussi. Je veux dire, tu dors-tu dehors l'hiver une fois de temps en temps juste pour te pratiquer puis tester ton gear puis tout?
Exact. J'ai sur le balcon chez nous, monte la tente, ben c'est ça, tu sais.
Ah oui, il faut.
Puis c'est juste de pratiquer comme la petite transition, de dire, OK, sors de la tente, habille-toi, puis va courir. Puis le soir, ben là, tu sais, fais tes affaires, fais un petit jogging, va te recoucher dans la tente. Juste de préparation-là, t'aides tellement dans tes expéditions. Puis regarde, que tu te couches là, sur ton balcon, que tu couches dans le bois, là, ben, il faut que tu pratiques ton camping dans les zones de moins 5 degrés, moins 10 degrés. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes là, dans ces zones-là, de moins 10 à moins 20, de moins 20 à moins 30. C'est un autre setup, là.
Ah, c'est clair.
Fait que ça, faut que tu les ailles essayer, là. C'est pas le temps d'apprendre en plein milieu des Laurentides que bon, ben, t'as eu trop chaud dans ton sleeping, man, tout est mouillé, puis là, tu fais ta tête de ce qui te fond, puis là, après ça, ben là, tu te couches, man.
Non,
Ton
c'est ça.
sleeping est tout mouillé, là.
Tu viens de perdre la garde, tu l'as perdu pour une couple de jours.
Tu l'as perdu, man. Exactement.
Ben, c'est comme une préparation physique, là, je veux dire, on le dit, on le répète, puis on le dit, dans un ultra, tu te prépares, ou dans une course en sentier, ou une course de route, peu importe, tu te prépares, oui, physiquement, mais il y a toute la part de logistique aussi. Tu ne te mets pas à essayer des choses la première fois dans une course. C'est pas recommandé. T'sais. Si tu veux
Exact.
manger telle affaire avant une course, mange-en pas le jour de la course, c'est pas une bonne idée. T'sais. Fait que là, c'est-tu le but de réessayer? Là, maintenant que tu l'as tenté une première fois, est-ce que c'est dans les plans l'hiver prochain ou dans le futur de retenter le sentier Maître Inoue?
Je suis un gars de plein de projets. Fait que le Sentier des Jésuites, c'en était un. J'avais déjà mes projets pour l'année d'après. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, j'ai tout le temps mes projets pour mes 3, 5 ans. Puis là, ça, fallait. Dans ma tête, je le réussissais.
Ouais, la
Fait que
fenêtre
l'année.
d'opportunité, c'était cette année.
Après ça, l'année prochaine, j'avais un autre projet en tête.
OK.
Mais je dois t'avouer que lui, il est tannant, là,
Il
parce que.
travaille.
Ouais, il me
Ça
travaille.
fait une semaine, ça fait pile une semaine aujourd'hui à peu près
Ouais.
qu'il était annoncé justement que, ben, que tu étais revenu et tout. As-tu le temps de peut faire la paix avec cette décision-là, avec cette aventure-là, ou il y a encore un petit sentiment de devoir non accompli ou un petit goût amer?
Ben, il y a eu beaucoup de positifs en l'air de ça. T'sais, dans les plus puis les moins, là, il y a beaucoup plus de positifs.
Ah, c'est cool.
Il y a tellement de monde qui m'ont écrit là, avec du positif pour dire, regarde, ton expédition m'a inspiré. J'ai acheté le livre. Regarde, ça, là, c'est tellement le fun que d'avoir fait une expédition puis d'avoir dépoussiérer cette vieille histoire-là. Puis là, bang, dans l'espèce de communauté de plein air, hop, j'ai popé de quoi, tu sais. Puis là, il y a un intérêt. Là.
Ouais. Ça c'est tellement... une graine, puis là, ça fait son chemin. Là.
Exactement. Fait que ça, c'est super positif. Puis, tu sais, pour un aventurier, regarde, tu peux pas... c'est gratifiant, là.
Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est cool que déjà, que tu le vois positivement, puis ça démontre aussi le genre de gars que t'es aussi, là, de te relever, puis regarde, il y a du positif là-dedans, puis on apprend dans ces choses-là, puis on en retire du positif, puis ça va clairement te servir, peu importe quoi ton expédition pour l'an prochain, je sais pas si tu vas en parler ou si c'est des projets top secret en développement, mais c'est sûr que ça va te nourrir pour la suite, là.
Ah, exact, exact. Fait que là, ben, l'année prochaine, c'est sûr que là, ça me travaille encore ben trop de réussir ce sentier-là.
Ah oui.
Puis, t'es encore trop jeune pour dire, OK, je vais le faire, mais je dois t'avouer que, oui, j'ai repensé déjà aux mathématiques. De dire, OK, la prochaine, si je la refais, là, c'est sûr que je vais avoir une autre approche.
Ouais.
Cette année... Je dois dire que j'avais trop mis peut-être l'accent sur le profil un peu athlétique de dire, OK, je vais le faire en 10 ou 12 jours. La prochaine fois, si je le fais, je vais dire, bon, ben, regarde, là, je vais avoir une approche peut-être plus sac à dos avec un poste de ravitaillement quelque part pour dire, regarde, plus léger, plus rapide. Puis, tu sais, le prix de l'autonomie, là, ben, je pense que je l'ai, là, je me dis, OK, là, les traîneaux versus... OK, là, je voulais vraiment être autonome, man. Puis là, de dire, OK, là, je fais le sentier des Jésuites, ça fait comme 40 ans, il n'y a personne qui l'a fait, puis moi, je veux le faire en autonomie. Puis en plus, on était dans le COVID, et là, qu'est-ce que c'est? Ça, man, c'est quand même quelque chose. On fait tout le temps, tu sais, on parle d'ultra, puis... FKT, tout ça, dire, OK, ah, je l'ai fait en autonomie. C'était-tu la meilleure approche pour dire, OK, c'était la première fois, tu sais. Je me suis pas donné la tâche facile. Mais le fameux sentier des Jésuites, mais même si je me fais un poste de ravitaillement, il est tellement éloigné. Disons, j'aurai une équipe l'année prochaine d'un poste de ravitaillement. Ils vont vivre toute qu'une expédition. Ah,
ça va être une expédition pour d'autres aussi. Hein.
Oh, ça va être une expédition, là. Fait que là, j'ai toute cette mathématique-là encore.
OK, mais ça te trotte dans la tête. Là.
Ouais, c'est ça. Mais oui, man, c'est trop poche de dire, OK, j'ai pas réussi.
T'as encore plein de temps pour le faire. Là. T'es jeune, t'as plein d'années devant toi pour retenter. Écoute, quand t'auras un hiver un peu plus froid et pas de couche de slush, déjà, tu vas te donner une petite chance.
Hein. Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, j'avais d'autres aventures de préparer, puis celle-là me faisait ouvrir une autre porte pour une autre chose, puis dang! Mais ça a été une très belle expérience, puis on verra, là, on verra ce qui suit, mais l'année prochaine, à suivre.
À suivre, on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Avant de finir, je veux qu'on parle des Green Goals Running Club, parce que j'en ai parlé un peu avec Marie-Ève la semaine passée. C'est un club de course à Québec que tu as fondé. Parle-moi des débuts de ça, puis on veut savoir c'est quoi un gringo. Ça part de où ce terme-là, le terme gringo?
Ben, le gringo, c'est un peu parti de mon surnom, tu sais, ben, ça partit surtout à mon milieu de travail. De dire, OK, là, le monde avait comme un peu d'intérêt. Qu'est-ce que c'est, cours un marathon, puis j'avais pas comme le stéréotype du marathonien, là, qui avait le soulier ou bien le vêtement technique. Là, je vais bien t'avouer que mes premiers marathons, là, c'est pour ça que ça avait un peu le nom Gringo. Là, c'est que moi, j'ai fait avec la peur de chouclac qui était dans mon garde-robe.
T'sais. Ah, c'est ça.
J'avais pas de vêtements techniques, puis je prenais le gilet qu'il me donnait avec le dossard, man, puis regarde. Puis le côté aventurier, comme je te dis, c'est une approche. Gringo, c'est un peu...
Un mindset.
Un mindset, une espèce de mentalité. Puis là, le monde, ben, ils ont commencé à courir avec moi, disant, OK, man, on se casse pas la tête, là. On court sur l'heure du midi, on fait une randonnée. Fait que les Gringos, c'est surtout un club social. puis qui a évolué au fil du temps. On en a fait un vrai club non-profit enregistré. Puis, de fil en aiguille, ben là, on a des sorties à tous les jeudis soirs, de type social encore, comme je te disais. Et puis, on se réunit. Puis, au lieu d'être tout le temps le moins de points de rendez-vous, on va tout le temps comme un peu explorer différentes trails dans la région de Québec.
OK.
Puis, c'est surtout avoir du fun. Je te dirais que les Gringos en particulier, on a chacun notre plan d'entraînement, chacun fait leurs petites affaires. C'est libre à toi d'inclure la sortie du jeudi dans ton programme, mais c'est plus comme, regarde, tout le monde a son programme de son bord, puis le jeudi soir, on s'amuse entre nous autres.
Ah, c'est ça, c'est pas un club que vous suivez tous le même programme, puis tu fais des plans d'entraînement pour les autres, c'est on se rejoint puis on trippe ensemble. C'est fait très, moi, ce que je trouve cool à Boussouis. Ça fait longtemps que je suis dans le groupe Facebook, puis moi, je dois l'avouer, là, je suis un très loup solitaire dans mon approche, puis là, je sais pas si c'est la COVID qui me fait l'effet contraire ou si c'est le fait de jaser avec plein de monde, mais là, ça me parle de justement aller vous rejoindre une couple de fois les jeudis puis faire ça. Mais je pense qu'il y a une approche très trail, très laid back qu'on retrouve dans notre communauté de trail, dans ce club de course-là, de juste se rejoindre. Puis il y en a pour tous les goûts. Tu as des fusées, là, je veux dire, tu as Dave Clément, tu as des gars à Québec qui sont extrêmement rapides. Puis tu as des gens du mid-pack, du backpack, puis tout le monde trippe ensemble.
Exact, exact. On est quand même une belle variété de différents pays qui se suivent. À la fin, c'est juste social. Là. Puis, oui, on peut se déboucher une bière dans le parking après. Puis, c'est pas. Puis, une fois par mois, on fait quand même une activité spéciale.
OK.
L'année passée, écoute, même comme Mont-Saint-Anne, faire un peu de vertical là-dedans, du D+. On parlait de Marie-Ève aussi. Là. Exemple du typique. Green Ghost et Marie-Ève, elle dit, hey, allez, on voudrait faire un défi 24 heures. T'sais. Man, 24 heures. On fait un 24-12-6. Puis en plus, Marie-Ève, elle l'a collé comme en fin de saison. Tout le monde avait fait des courses virtuelles dans le COVID. Ah ouais. J'étais là. Je pense que, ouais, 24. Hey, man. Ça a pogné, là.
Ben oui, ça a été fourré de votre affaire, là. Vous avez dit non, c'est le 24, c'est le 12,
c'est
le 6.
C'est là que j'ai fait Rivière-à-Pierre à Québec. Et puis là, on n'a pas parlé beaucoup, mais moi, pendant ce temps-là, j'étais hors couverture cellulaire. Mais pendant ce temps-là, les Gringos faisaient toutes leurs petites affaires, chacun de leur bord. Puis, de mémoire, là, on était quand même en 10 puis 12 qui se sont essayés pour un 24. Puis chacun a comme... sorti ou fait son propre record personnel au travers de tout ça.
Ah ouais, c'est malade.
Marie-Ève, je pense que c'est là qu'elle a fait en haut de 100 km.
Ouais, son premier au-dessus de 100 kilos, première fois sa plus longue sortie. Première fois qu'elle pognait les trois chiffres. Là.
Fait que là, elle a fait comme... Lendemain, j'ai fait comme...
Il y a
de quoi qui s'était passé de merveilleux. Puis c'est grâce à Marie-Ève. Très cool.
Ah, c'est cool. C'est un club, je pense, qui représente exactement l'esprit trail qu'on aime tout, qu'on jase, que je le répète à chaque épisode, mais cette espèce de convivialité-là, cette espèce de côté... y a-t-il un terme français pour laid-back? J'ai envie de dire laid-back, mais tu sais, quelque chose de très... c'est ça, roots. Hein? On va, disons-le dans la belle langue de Shakespeare, mais tu sais, très laid-back, très roots, très course en sentier, course en montagne, très... On trace une ligne à terre en peinture, puis on y va, tu sais.
Oui. C'est vraiment l'esprit de trail. Puis, regarde, on peut partir 1 heure, ça peut durer 1h20. Là, tu sais, attends-toi que ça se dépasse.
Ah, écoute, comme mes épisodes à moi, des fois, je vise 1 heure, puis c'est tout le temps 1h20, des fois 1h40. Mais écoute, hein, c'est ça, Gringo.
Puis, l'autobus, tu sais, c'est un autre facette aussi. Tu sais, on voulait, notre mission, c'était comme de rassembler, réaliser, puis redonner. C'est la mission un peu du non-profit qu'on a créé, le Gringo. C'est bon. Rassembler, c'est ce qu'on voulait faire. C'était rassembler la communauté de trail ou de course. Puis l'autobus, disons, des Gringos, c'est un bel exemple.
Ah oui.
Je pense que là, on a vraiment rassemblé différentes communautés. Comme à Montréal, là, c'était capoté comme ils ont aimé le concept du Gringos.
Ah oui.
Ben, ils ont quasiment foulé le bus juste avec
Ben, c'est
Montréal,
ça,
tu sais.
c'est une méchante ride de Montréal pour descendre à Percé faire le Gaspésia, là,
Ah,
fait
c'est ça.
que...
Fait là, j'avais lancé le projet, mais bang, les tickets, c'était à Montréal, là, tac, tac, tac. Ben, ça c'est l'aspect rassembleur
Ah oui.
des Gringos. Et puis, dans l'autobus, il y avait du monde de Rouyn-Noranda, là, celle-là. Et eux autres, ils ont chauffage jusqu'à Montréal, ils embarquent là.
Ah, c'est
Rassembleur.
trippant.
Puis réaliser, ben c'est ça, c'est de réaliser des projets qui sont un peu différents, cool, tu sais. Fait que, puis redonner, ben ça, c'est le bout le plus dur, mais on le fait de différentes manières. Puis, tu sais, comme l'autobus, c'est que, tu sais, c'est quoi redonner? Ben là, je pense qu'on a quand même rassemblé du monde de partout, de la communauté de Montréal, Rouyn-Noranda, puis on a ramené un peu de touristes, là, à Gaspésie, là,
Ah oui,
si tu
exactement. Ouais, puis tu
veux.
sais, il y a aussi l'aspect que souvent vous, tu sais, Marie-Ève en parlait, son défi dans la course à la barrière. Tu sais, toi, je sais qu'au-delà aussi de votre tentative sur le sentier des Jésuites, il y avait aussi de le rattacher à la cause de sur la pointe des pieds. Fait que tu sais, il y a tout ça aussi de redonner puis de faire des fois des défis un peu fous. Puis tu sais, il y a plein de monde qui s'amuse là-dedans à joindre un défi sportif, un accomplissement à une bonne cause, puis de ramasser, tu sais, que ce soit le BU, Bromont Ultra, ou que ce soit des défis personnels. Tu sais, David Bombardier, il fait des plans de marde, mais ils sont souvent affiliés avec
Ouais,
une
exact.
cause, puis il y a une levée de fonds qui vient avec ça, puis il y a de quoi de sympathique, puis là, tu redonnes nécessairement rendu là.
Exact. Fait que c'est ça l'esprit Gringo. Tout le monde est la bienvenue. Puis...
L'invitation est lancée, là, post-COVID, quand on va avoir le droit, là, moi, je garde ça
Ouais.
proche, puis moi, je te fais une promesse ici en ondes, il va y avoir une trace. Parler. Le premier jeudi, je vais être là avec vous autres, c'est
Les
certain.
jeudis Gringo.
Yes. Avant de finir, moi, j'ai tout le temps mes questions avec l'arnaque, mais avant ça, on s'était dit qu'on allait faire un petit tirage pour Stoked Oats. Parle-moi un peu juste de Stoked Oats, ton partenariat avec eux, puis ils t'ont accompagné justement dans ton aventure sur le sentier des Jésuites. Tu me dis que ça fait 5 ans que tu es ambassadeur pour eux autres.
Oui, ben quand même. Stocktoast, là, ça part de loin. C'est mon ami Simon Donato qui a parti cette compagnie-là. Que ce soit dans le canot à glace, dans tout, c'est ce que j'ai entrepris dans les 5 dernières années. Et on a tout le temps été là pour dire, allez, on te supporte. Fait que,
Ah, c'est cool d'avoir un partenaire comme ça qui est fidèle puis qui embarque dans tes aventures, tes expéditions, c'est trippant. C'est un bon
oui.
produit en plus, c'est un produit que toi tu consommes dans tes aventures aussi, dans tes expéditions.
Oh, dans la vie de tous les jours, moi, Stocktoast, ça fait partie de la nutrition quotidienne. Toute la famille, mes enfants
Ah
mangent.
ouais, puis tu m'en as amené, puis pour vrai, il est vraiment très bon. Puis je l'ai ici à l'écran. Ceux qui ne connaissent pas Stoked Oats, en fait, pour le concours, c'est simple. Vous allez aller sur le site de Stoked Oats, fait que Stokedoats.com, donc stokedoats.com. Allez choisir un produit, peu importe c'est quoi. Allez voir ce qu'il y a sur leur site, allez voir leurs produits. Écrivez-moi sa messagerie Facebook ou Instagram de Pas sorti du bois. Allez aimer les pages Pas sorti du bois si vous écoutez ça en ce moment. J'ose espérer que vous aimez mes pages, mais allez aussi aimer les pages de Stoked Oats. Écrivez-moi le produit qui vous intéresse, puis on va faire un tirage parmi toutes les personnes qui m'ont écrit, disons, pour le vendredi 19 mars à 17 h. Fait qu'on se donne 2 semaines. Écrivez-moi, puis on va faire un beau partenariat avec Stoked Oats, puis je ferai le pont avec Olivier, puis on fera le tirage, puis on fera un tirage même en Facebook Live. Écoute, on est fou. On est fou. Comme j'ai fait avec le
Yes.
QMT puis le concours avec Zach, fait qu'on va faire pareil le vendredi 19 mars. Donc, avant de finir, question éclair, NAC, c'est simple, 10 questions. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT, le Fastest Known Time féminin et overall est à Isabelle Morin en 22 secondes. Côté des hommes, c'est Richard Turgeon en 25 secondes. Fait que c'est quand même rapide. Tu me dis quand tu es prêt, je pars le chrono puis je te pose 10 questions.
Go.
Route ou trail?
Trail.
Bière ou vin?
Bière.
Course organisée ou défi solo?
Solo.
Granola ou gruau?
Griot.
Monter ou descendre la montagne?
Montez.
Question NAC, protéines de grillon ou protéines végétales?
Griot.
Gaspésie ou Lac-Saint-Jean?
Et les deux.
Courir à plus 30 ou à moins 30?
Moins 30.
Orientation ou canot à glace?
Orientation.
Beer mile ou défi 24 heures?
Les deux.
27 secondes, all right. C'est un des bons temps. 27 secondes, c'est un des temps les plus rapides, mais j'en ai posé une couple de bonnes. Je veux dire, Beer
Dear
mile ou défi
Mike.
24 heures, on n'a pas parlé à cet épisode-ci, Mais les Gringos, vous avez organisé un beer mile. J'en ai parlé avec Marie-Ève.
Ouais, ça, c'est faut être membre actif.
C'est pas ouvert à tout le monde.
Ça va être membre actif, ouais.
Ouais, le beer mile, ça, c'est une autre. Écoute, ça fait deux épisodes, j'en parle. Si ça vous pique votre curiosité, allez voir sur Google. Vous allez voir, c'est bien divertissant. Mais, un gros merci, Olivier. C'était vraiment intéressant de jaser d'aventures, d'expéditions. T'es un gars d'ultra. On n'a pas parlé beaucoup, mais t'as fait des ultras, t'as fait QNT, t'as fait le Gaspésia. T'as-tu des ultras qui s'en viennent au calendrier, ce que peut être un calendrier en 2021? Là, on s'entend, on prévoit, mais on ne sait pas. T'as-tu quelque chose qui s'en vient côté course en sentier?
Là, je vais te dire que je regarde vraiment pour le Gaspésia Sœur. On va regarder. Là, on est encore dans une incertitude totale.
Ben oui.
Bon, mais en tout cas, j'ai ça. Sinon, j'ai le Beaumont Ultra que j'ai dû reporter de l'année passée. Puis non, je vais. Ben honnêtement, là, je trouve tellement que c'est une incertitude encore cette année.
Ben, c'est déjà deux bons challenges. Gaspésia, Beaumont, c'est quelle distance que tu fais?
J'avais reporté le 65 parce que là j'avais d'autres courses aussi l'année passée. Là, fait que là, ben, je pense que c'est le 65 que j'avais pris. Mais c'est ça. Sinon, ben, ça ne me dérange vraiment pas d'avoir pas de course organisée. Je vais mettre l'accent sur mes expéditions, puis je vais remettre du temps peut-être pour enfin, okay, qu'est-ce que je fais l'hiver prochain.
Ah oui, exactement, on va suivre ça, puis la porte de Pas sorti du bois sera toujours ouverte pour toi quand tu viendras jaser de tes expéditions, c'est super intéressant, c'est un monde que je connais vraiment moins, puis je trouve ça le fun de le découvrir à travers toi, puis c'est le fun, t'es un gars passionné, puis je pense que tu l'as campé dès le début, t'es un gars, quand t'as de quoi en tête, ben tu le fais, puis tu mets les bouchées doubles, puis tu mets les efforts, puis tu te mets un objectif, puis tu le fais, fait que non, c'est vraiment, vraiment trippant de te suivre, Olivier, puis merci de ton temps.
Hey, merci Yannick, je trouve ça super le fun ce que tu fais dans la communauté. Là, je pense que c'est le fun de tu fais connaître plein de choses à plein de gens. C'est rassembleur. Un vrai gringo.
Un vrai gringo, écoute. On verra première sortie des jeudis quand je serai avec vous si je suis un vrai gringo d'ici là.
Cool.
On verra. Fait que merci tout le monde. Merci à David Hébert qui signe mon design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à tout le monde qui m'écrit, qui écoute chaque semaine, qui me donne du feedback, qui me soumet des idées d'invités. Écoute, la liste est longue, puis c'est tant mieux. Moi, j'ai l'ambition de faire ça longtemps, ce podcast-là. Fait que là, quand vous m'envoyez des propositions, moi, je grossis la liste. Donc, merci Olivier. Merci à tout le monde. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.